Vous écoutez Bac FM, vous avez fait le bon choix, on est mercredi, il est 10h30 et on est parti pour votre rendez-vous ciné de la semaine. Action générique.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur !
Qu'est-ce que j'aime ce rendez-vous du mercredi matin. Action, on va revenir ensemble sur toute l'actu du cinéma zarin. Je me suis pas présenté, je m'appelle Théo, bienvenue. Des sorties de cette semaine relativement variées, d'ailleurs, à l'avant-première de vendredi, en passant par les ressorties jeunes publics notamment, avec bien les vacances scolaires qui ont commencé. On va tout décrypter ensemble. Un nouveau ou une nouvelle gagnante aussi pour la place de ciné, je vous le rappelle, en partenariat avec le ciné Mazarin. Bac FM vous offre une place de ciné par semaine. L'inscription, elle se passe sur Facebook et Insta de la radio Bac FM. Pour cette émission, je suis accompagné comme tous les mercredis de ma réalisatrice intervenante, bien sûr desquelles le désir, Laetitia, applaudissements.
Salut Théo, salut tout le monde, salut Manuel, salut Emma.
Salut Laetitia,
ça va ? Il y a
Laetitia,
du monde en studio, ouais, ça va très bien.
Mais ouais, il y a du monde, ça fait plaisir, on n'est pas que tous les deux,
ouais.
Pour une fois, enfin un petit peu de population autour de nous. Tu vas créer le débat avec ton film du grenier en fin d'émission ?
Oui, et un film du grenier qui va être un peu griffu.
Ouais, c'est ça, c'est encore une fois en prévention d'Halloween, on va
ouais,
dire.
Ouais, là ça se précise, donc là c'était film d'horreur obligatoire.
Petit débat autour d'une citrouille avec une bougie à l'intérieur. Et puis aujourd'hui, il nous fait le plaisir de venir en studio. Généralement, vous l'entendez soit au téléphone ou par des chroniques qu'il enregistre en amont, notre spécialiste cinéma et fidèle intervenant sur Bac FM, Manuel Housset. Applaudissements également, s'il vous plaît.
Bonjour Théo, bonjour Emma, bonjour Letty, bonjour à toutes et à tous.
Ça va, salut Manuel.
Oui, bah écoutez, c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver en studio, ici à Nevers, et voilà, pour parler cinéma, comme chaque mercredi, Action, je crois que c'est un beau titre d'émission, Action.
Bah bien sûr, pour parler cinéma, on ne pouvait faire que avec ce titre Action, et puis regarde, on t'accueille avec le soleil.
Oui, c'est le soleil du Nivernais et c'est vraiment une belle journée d'automne dont il faut profiter.
Et d'ailleurs, on va juste faire une petite aparté là-dessus. On va t'entendre aussi très bientôt sur Bac, là, d'ici la fin de semaine, pour évoquer autre chose aussi, parce que tu n'as pas qu'une casquette de spécialiste cinématographique. On va parler de théâtre aussi bientôt avec toi.
Oui, exactement. On parlera donc d'un beau spectacle consacré à Notre-Dame de Paris, présenté dans le cadre donc de la Ronde des Arts en Sud-Morvan, qui tout au long de l'année, au-delà du festival qui se déroule au mois d'août, eh bien, entretient la flamme culturelle.
Et ça, on aura l'occasion d'en parler soit demain, soit vendredi. En attendant, on va continuer de se concentrer sur le cinéma, Manuel, avec un joli programme aujourd'hui. Même toi, Laetitia, je sais que tu es impatiente d'en parler. On va parler de foot, on va parler de forêt mystérieuse à travers un joli film d'animation et puis de musique française aussi, entre autres, dans quelques instants. Mais juste avant, eh bien, c'est les infos ciné.
Respect, robustesse, Caius, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Et on commence ces infos avec un film qui devient le plus gros succès pour Pierre Ninet. Manuel, un indice, on en parle juste après.
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis.
Ça n'est pas de la vengeance. Le Comte de Monte Cristo.
Le Comte de Monte Cristo, gros succès de cette année pour le cinéma français qui, à l'image des Mousquetaires par exemple, donne un coup de fouet au cinéma historique. C'est une bonne nouvelle, ça, Manuel.
Oui, effectivement, parce que plus qu'un immense succès, c'est à la fois le retour en salle d'un public, j'ai envie de dire, multigénérationnel. Il y a à la fois les amateurs de cinéma, les cinéphiles, mais aussi les jeunes spectateurs. Donc le film Le Comte de Monte Cristo en salle depuis fin juin, on en avait largement parlé dans Action. Il a dépassé les 9 millions d'entrées, a indiqué d'ailleurs dans une vidéo qu'il a publiée sur X le producteur du film, Dimitri Rassam. Plus de mots pour remercier les 9 millions de spectateurs. C'est assez fabuleux.
Est-ce que tu penses que c'est un chiffre qui va encore augmenter d'ici là ?
Oui, je pense. D'ailleurs, d'après l'acteur principal, Pierre Ninet, le film a attiré 2 millions de spectateurs à l'étranger. Pour lui, c'est assez impressionnant parce qu'il y a 20 ans, dans sa petite chambre d'ado, il rêvait de dire des grands textes et il n'osait pas imaginer une seule fois qu'il pourrait incarner le comte de Monte Cristo. Dantès rôdait déjà avec cette épopée immortelle, a-t-il déclaré. Merci à tous les spectateurs, à ces millions de spectateurs qui ont vu mon film.
Un petit mot sur ce que je disais justement en entrée de cette info, ça donne un coup de fouet aussi au film historique et ça redonne aussi envie aux gens. On n'a pas parlé aussi de Mai Wen qui avait fait un très beau film aussi historique, j'ai perdu le nom, mais voilà, les films historiques reviennent au cinéma et donnent envie aussi aux gens de retourner vers ce cinéma-là.
Oui, effectivement, c'était consacré à Marie-Antoinette.
Merci.
Tout à fait. Le film de Mai Wen, ça donne envie à toutes les générations de redécouvrir les classiques, parce que c'est le roman d'Alexandre Dumas, effectivement. Et ça a permis, mon cher Théo, au château d'Alexandre Dumas, qui se trouve dans les Yvelines, de connaître une hausse de fréquentation cet été. C'est assez impressionnant de voir que, en France, par exemple, seul le film d'Artus, un petit truc en plus, a fait mieux que le Comte de Monte Cristo en 2024. Puisqu'on le rappelle, Artus avait dépassé les 10 millions d'entrées, c'était à peu près à la mi-août. Pour donner un indicateur au box-office.
Alors, c'est pas sûr que le Comte de Monte Cristo dépasse finalement
non,
le
mais
film
c'est
d'Artus.
Déjà deux films français quand même à plus de 10 millions.
Voilà, c'est ça.
Moi, je pense qu'il sera plus de 10 millions. Je pense le Comte de Monte Cristo.
D'accord.
Je l'espère et je le souhaite fortement.
Et il y a un autre film français d'ailleurs qui est en train d'arriver très fort dans le rétroviseur, c'est L'Amour Ouf de Gilles Lelouch qui a fait une très belle entrée avec plus
démarrage
de 700 000 entrées.
Démarrage foudroyant,
Meilleur démarrage d'ailleurs que le Comte de Monte Cristo. Donc, voir si par la suite.
Si ça tient la distance.
Ouais, sur la lignée ou s'il ne s'essouffle pas. On verra ça par la suite. L'Amour Ouf, d'ailleurs, très très beau film que je vous conseille d'aller voir. Il est encore à l'affiche d'ailleurs du cinéma Mazarin, comme le Comte de Monte Cristo. Il y a encore quelques séances dispo dans votre cinéma de Nevers. Alors, moi, dans les infos qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil, j'ai décidé de parler d'un truc qui va te faire plaisir. D'ailleurs, Letty, j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette info et je me suis dit que ça aurait été sympa d'en parler.
Une histoire de monstre
Alors, ça peut être des monstres quand ils sont passage. C'est une belle initiative qu'a eue Laetitia Doche. Elle a présenté son film qui s'appelle Le procès du chien dans un cinéma parisien avec, dans la salle, et bien justement, des chiens.
Ah, des chiens.
Et tous les spectateurs du film étaient les bienvenus avec leur bête à poil, bien sûr. C'est une idée qu'elle avait déjà en tête depuis un moment et elle avait bien senti le vent venir car ça a cartonné.
Oui.
Elle avait des doutes sur est-ce que les gens vont vraiment venir avec ou pas. Eh bien, figurez-vous que oui, ça a cartonné. Il paraîtrait même que le film aurait fait frétiller la queue de certains. Alors, ce qui est plutôt bon signe, il faudrait peut-être quand même pas les emmener voir le nouveau Emmanuel parce que là, ça pourrait être encore pire. C'est anecdotique comme info, mais c'est assez original pour en parler. Et puis c'est peut-être une initiative qui sera mise plus souvent en place d'ailleurs à l'avenir, on le souhaite peut-être, pourquoi pas, à Nevers. Laetitia, je suis sûre que tu emmèneras
Moi, c'est mon rêve d'emmener mon chien au cinéma avec moi.
Mais bien sûr.
Je suis pas sûre qu'elle serait très sage, mais bon.
Il paraît que, figure-toi qu'à cette séance là les chiens ont été très sages. Voilà.
D'accord.
C'est ce qui est ressorti.
Moi, je pense qu'elle a boiré, mais bon.
Et puis c'est une action qui sera certainement mise en avant dans le possible futur musée du cinéma à Lyon. Deuxième petite info que je vous donne comme ça, c'est un projet qui a été défendu dans une tribune qui a été publiée vendredi dans Le Monde par des figures du 7e art. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a appelé samedi à Lyon à une vraie réflexion sur ce sujet-là. Elle a évoqué des collections patrimoniales uniques au monde, stockées dans des caisses depuis presque 30 ans, et l'incendie qui avait ravagé en 97 le toit du palais de Chaillot, où se situait justement la Cinémathèque française. Manuel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ce projet ? J'imagine que t'es pour.
Oui, alors c'est une très très bonne idée. Après, dans un contexte budgétaire extrêmement serré, comme on le sait, il va falloir trouver des sources de financement. Donc on peut compter peut-être sur notre ministre de la Culture, parce qu'on sait qu'elle est hyper active et elle sait s'avérer extrêmement persuasive. C'est un serpent de mer, on en parle depuis longtemps. Il y a par exemple à Turin un très beau musée du cinéma. Il y a des lieux dédiés au cinéma un petit peu partout dans le monde. Il y a la Cinémathèque française, qui est quand même
aussi bien sûr.
Voilà, où il y a de belles collections. Il y a l'Institut Lumière à Lyon, qui possède également des trésors. Donc on a le patrimoine. Et puis c'est en France que le cinéma est né, en 1895, à Lyon, rue du premier film, où a été tourné. Donc la sortie des usines Lumière. Donc voilà, on a tout pour avoir un beau cinéma. Donc on espère que ça va se concrétiser et que Rachida Dati saura mener cette belle aventure.
Ouais, c'est un projet qui est très intéressant. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler sur Bac et d'y aller, bien sûr. Manuel, on compte sur toi pour nous faire un petit reportage là-bas, en direct du musée.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. Moi, je suis le reporter tout terrain et prêt à bondir sur l'actu lorsqu'elle se présente.
Manuel, c'est le 4 roues motrices de l'AFM. Je te propose maintenant, Manuel, qu'on se penche sur les sorties ciné de cette semaine à retrouver dans votre ciné Mazarin.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et 5 nouveaux films à l'affiche de votre ciné Mazarin cette semaine, et ça part dans tous les sens. Figurez-vous, de la musique, de la boxe, un film d'animation, du foot, et puis un blockbuster américain. Bien sûr, il en faut un. Un petit peu plus d'un an après Rise of the Best, la saga Transformers revient. Cette fois, c'est sous la forme d'un film d'animation qui raconte les débuts d'Optimus Prime et de Megatron.
Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre. Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères.
Transformation et en route !
Je veux aider à bâtir un monde meilleur.
Tu l'as dit, on peut être tellement plus.
Détruisez tout ! Brûlez tout !
On doit l'arrêter !
Decepticons ! Révolte !
À l'abri !
C'est pas vrai !
Le moment est venu de nous dresser, ensemble, tous unis.
T'es prêt ?
Je suis toujours prêt.
Direction Cybertron, là où le film se déroule entièrement. Il raconte comment deux frères d'armes, Optimus Prime et Megatron, sont devenus ennemis jurés. Ils mènent au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons. Manuel, est-ce que c'est pas un petit peu le film de trop pour la franchise, celui-là ?
Alors, Théo, nous allons revenir un petit peu aux sources de la saga. C'est vrai qu'on retrouve les bastons intergalactiques parfois interminables. Il y a les transformations aussi spectaculaires. Hein. C'est quand même Transformers, c'est le titre, le commencement. Donc c'est le préquel. Bon, il y a quelques points d'humour, il y a une dimension. L'animation, c'est à la fois futuriste et un petit peu classique. Peu dans le côté vieille école. Et puis il y a un choix quand même qui m'apparaît curieux, c'est le doublage en français. Il y a deux voix quand même très renommées dans le cinéma français, c'est Audrey Fleurot et Philippe Lachaud. Je suis pas certain que ça soit judicieux d'ailleurs, à titre personnel.
Pourquoi Bah des voix trop connues,
des voix qu'on peut un peu trop identifier, et je pense qu'il faut quelque chose de plus anonyme. On est en plus dans un univers robotique interstellaire. On sort un peu fatigué et il y a un essoufflement incontestable. Mais les fondamentaux sont là aussi, donc les fans de la saga, je pense, y trouveront leur compte.
Ouais, Emmanuel, tu parlais de vieille école, mais il y a aussi peut-être un peu un retour aux sources, parce qu'à l'origine, les Transformers, dans les années 80, c'était un dessin animé série. En fait, c'était au départ des jouets
qui ont donné
lieu à une série dessin animé, des jouets que j'ai moi-même possédé.
Notre côté Letty, c'est sa dimension justement un petit peu intemporelle. Laetitia.
Donc t'es un peu geek qui ressort parfois.
Non mais c'est vrai, t'as raison de le dire. C'est vrai que c'est des jouets qui ont amené ensuite à le mettre sur d'autres de supports, et notamment le cinéma, mais la télévision avant. Après voilà, est-ce que ça s'essouffle ou pas ? On vous laisse vous faire votre propre avis. Ce film est disponible au ciné Mazarin, bien évidemment. On va quitter le monde des robots maintenant pour le monde des humains, mais on va rester quand même en revanche dans le combat, à travers le plus noble des arts, c'est la boxe. Challenger, film signé par Varant Soudjian, qui avait déjà réalisé d'ailleurs Walter, et il revient avec encore Alban Ivanov à travers son film, qui est une sorte d'hommage à Rocky. L'acteur joue Lucas, qui rêve d'être un grand boxeur. Malheureusement, pour l'instant, il n'est qu'amateur et il doit se contenter de petits combats foireux, mais un jour le destin va frapper à sa porte et va propulser notre héros au sommet. Bande annonce, on en parle juste après.
J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va, je tape pas trop fort?
Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y'a pas de risque.
Mais ça va, hein.
Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein.
Quoi ?
C'est compliqué de me trouver un vrai combat.
Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc.
Tu les as quand même pris, les 10%.
Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles.
Je fais le sparring.
Le but, c'est que t'ailles mollo. Limite, tu mets pas de coup.
Moi, c'est Lucas Sanchez.
Tatoue-toi.
Ça buzz de partout, laisse tomber, tout le monde veut savoir qui t'es.
Ça retec le con.
Il m'a insulté là.
Joshua Camara, champion d'Europe en titre.
J'ai décidé d'affronter Lucas Sanchez.
L'autre là, il est en train de prendre ma place.
C'est un amateur, ça existe pas ça.
Le virtuel, c'est pas la vraie vie mon gars.
J'ai pas tout compris.
Je vais te tuer et en moins d'un round.
Là j'ai compris.
Je vais me faire buter à cause de toi.
T'es sérieux toi? Des matchs comme ça, c'est des sommes à 6 chiffres.
Quand même hein. Premier jour d'entraînement. Camara, c'est un animal. À chaque coup de poing, c'est comme si tu tombais du 20e étage. T'es déjà tombé du 20e étage?
Ah non, sinon je serais mort.
Réponds pas.
Je suis en train de galérer avec deux trompettes comme vous. Me rendez pas fou, monsieur Train.
Poto, réveille-toi, tu vas mourir. Faut qu'on crée un personnage, tu vois, un nouveau Lucas.
Ok, ok, c'est Lucas Sanchez, mon copain.
C'est quoi ça?
J'étais en vénère, tu m'as
dit. Mais ça va pas bien ou quoi, là?
Les premiers retours sont plutôt bons pour ce film qui s'appelle Challenger, cette comédie française. Le réalisateur, qui a souvent déçu d'ailleurs, signe selon les premières critiques et le premier retour qu'on va entendre de Manuel, un film très divertissant. Manuel, la question déjà que j'ai envie de te poser, c'est enfin un premier rôle pour Alban Ivanov.
Oui, et il le mérite parce qu'il en a fait un paquet de second rôles, voire des apparitions. Ouais. À chaque fois, il est très attachant, très touchant, donc on sent qu'il y a le potentiel. Voilà, ça y est, son grand rôle sur grand écran, c'est réussi parce que c'est une comédie attachante. Il y a beaucoup de punch, hein, j'ai envie de dire, pour un film de boxe.
Ouais.
Et Alban Ivanov, il est percutant. Alors, c'est tu parlais de Rocky un peu hexagonal, c'est vrai que c'est un...
Oui, c'est très inspiré d'ailleurs.
Voilà, boxeur un petit peu de seconde zone, hein, c'est le bras cassé qui arrive à percer. Il y a ce regard assez lucide, il y a également vraiment la prestation d'un acteur, voilà, on sait que c'est un acteur, c'est un humoriste, mais c'est un très bon acteur, et je trouve qu'il amène beaucoup d'épaisseur, et ce regard qui est le sien, voilà, une belle incarnation.
Oui, bien sûr, c'est à travers ce film donc, qui s'appelle Challenger. On va maintenant évoquer un film jeune public pour toute la famille, mais qui va plaire bien évidemment au jeune public. C'est un film inspiré de la bande dessinée Dans la forêt sombre et mystérieuse. Angelo a 10 ans et il rêve de devenir aventurier et explorateur. Un courage qu'il va devoir prouver.
Angelo présente les aventures d'Angelo l'aventurier.
Je vais devoir traverser cette jungle hostile où le danger est partout.
Tati a appelé. Mémé a fait un malaise. Il faut se dépêcher d'aller la voir.
Tout le monde est là ?
Revenez ! Vous m'avez oublié !
Un aventurier retrouve toujours sa mémé !
Mémé habite au sud.
Hein ?
Attends-moi ! Je viens avec toi !
C'est quoi cet endroit ?
Ah ouais, la grosse classe.
Y'a quelqu'un ?
Non, y'a personne ! Ah !
C'est dégueu, ça va pas la tête !
Ultra a des yeux partout.
Je me sens à nouveau d'attaque.
Pour tout détruire.
Et vous faites rien pour l'arrêter ?
Il faut nous unir et nous battre ! Résistance !
Résistance !
Résistance, quoi ?
Vous êtes un maigre ?
Je suis agent immobilier.
J'arrive, mon ami ! Je vais te sortir de là !
C'est
raté !
Raté !
Si tu dois prendre une décision importante, écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire.
Angelo dans la forêt mystérieuse, c'est le film d'animation de cette semaine qui va emmener petit et grand au cinéma, vous l'aurez bien compris, c'est un très beau film d'animation, c'est une vraie aventure à travers de très belles couleurs aussi que vous ne pouvez pas voir bien sûr à la radio, c'est pour ça qu'on vous invite à aller dans les salles obscures pour rencontrer ce fameux Angelo. Manuel, ton avis sur ce film et surtout sur les adaptations de BD aussi en film d'animation?
Oui, alors c'est Angelo donc dans la forêt mystérieuse, mais moi j'ai trouvé ce film hyper inventif, il est très drôle, il y a le personnage hilarant d'écureuil qui est très bien doublé par Philippe Catherine. Il y a beaucoup de références, hein, tu parles justement du cinéma d'animation. On pense au Looney Tunes, on pense aussi au premier film Disney en noir et blanc. Il y a même parfois aussi un petit côté manga. On peut voir également des références à Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Le film avait d'ailleurs été présenté en avant-première au dernier festival du film d'animation d'Annecy, ouais, où il avait impressionné. Moi, j'aime bien les adaptations qui sont réussies. On peut penser à Astérix, il y a Tintin, il y a toute l'histoire qui avait cartonné. Il y a plein d'adaptations réussies. Lucky Luke aussi, moi j'avais bien aimé également avec Jean Dujardin. Donc moi, je suis plutôt client, je suis plutôt fan, et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc on y va, banco, à fond.
Et puis sortie stratégique, bien sûr, en période de vacances scolaires.
Vacances scolaires, là, les vacances de la Toussaint, c'est chouette. On peut y aller. On vous le recommande chaudement.
On vous invite donc à aller rencontrer Angelo à travers cette fameuse forêt sombre et mystérieuse. On a parlé de boxe, on va maintenant parler de foot.
Très sport, hein, à fond, oui, le sport là.
Oui, oui, c'est vrai. Action. qu'on passe du ring au terrain de gazon maintenant, on va parler.
Ce qui n'est pas pour te déplaire, mon cher Théo.
Là, c'est ton domaine.
Ah ouais, non, mais là, les gars, je suis content. Là, vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte d'aller au ciné voir le film. D'ailleurs, on va voir l'avis de Manuel, parce que je sais que tu l'as vu, moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de voir ça. Donc je vous le disais, on va parler de foot. Le nouveau film de Fabien Antoniente, 4-0, sort en salle aujourd'hui, casting 5 étoiles avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty, et des personnalités du foot aussi. C'est très stratégique, j'imagine aussi. Le réalisateur Fabien Antoniente est un grand fan de foot. Cette passion l'avait d'ailleurs poussé déjà à sortir le film 3-0 en 2002. 12 ans après, il reprend du service avec la sortie de 4-0, bande-annonce, et on en parle juste après.
Il menace de saisir la plancha. Imagine un peu le symbole pour le Churrasco.
Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme j'avais dit depuis le début.
Papa, j'ai mis la main sur une pépite.
Et tu l'as trouvée où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin.
Tu sais, Kidan, avec nous, t'auras une famille. Les Pinto.
Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein.
Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec.
Manu a découvert un super joueur.
On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club.
Choqué pour ton frère. Mais t'as un commentaire sur mon resto.
C'est toi le fils Pinto?
Comment vous m'avez reconnu?
Bah t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Ah, la tombola du couillon, il a gagné le gros lot, lui. Hein.
Ça vous a pas plu?
Et c'est dans le bâtiment, non?
Non, pourquoi?
Pour rien.
Et toi, t'es qui?
Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin, t'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes cheveux, ça t'occupera.
Et le football, il a changé, monsieur Colonna.
Oh, frérot. On est là, frérot.
Ok, frérot.
Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérot? Il y a une portée ou quoi? Ouais. Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération, frérot. Hein. Monsieur Giroud.
Sérieux, c'est une blague, là?
Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club.
Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau.
Oh, ça dit quoi? J'ai fait un beau gosse.
C'est une histoire hors norme.
Petit pas, petit pas, petit pas!
J'y ai pris goût, moi, au foot business.
T'as pris un coup le maillot là?
Ah, c'est la machine.
Je t'en donnerai un autre façon.
Merci frérot, t'es un vrai. Merci, frère.
Tu peux passer ton slip aussi?
Arrête, toi aussi t'abuses.
Roland Courbis, Giroud, Rai, Karim Benzema, Paul Pogba ou encore même Didier Drogba sont à l'affiche de cette comédie footballistique qui est signée Fabien Antoniente, la suite de 3-0 avec un but en plus, Manuel, 4-0, mais pas 0 pointé, j'espère, rassure-moi.
Non, pas du tout. Si je peux te rassurer, donc c'est 22 ans après 3-0 que Fabien Antoniente, le réalisateur des campings, de turf et de disco, revient donc avec 4-0. Alors, une petite précision qui a son importance. Inutile d'avoir vu le film original pour pouvoir apprécier pleinement cette comédie. Ouais. Alors, vous l'avez entendu au travers de l'extrait de la bande-annonce. Donc, on plonge dans les coulisses du foot business, hein, c'est ça pour donner un petit peu un point de départ. Et t'as cité effectivement, parce que le réalisateur est un grand connaisseur du ballon rond, donc devant sa caméra il y a pas mal de stars que tu as cité. Il offre aussi à Paul Pogba un petit rôle et il se paye même le luxe d'une scène sur fond de vrai match du PSG, donc voilà, c'est On sent qu'il aime le foot, on sent qu'il aime également les stars du foot. C'est très sportif, donc c'est normal, et c'est jubilatoire. Donc on prend beaucoup de plaisir donc à voir ce long métrage.
Ouais, puis casting très stratégique, très marketing, avec des stars du foot qui vont amener les fans de foot en salle, moi le premier d'ailleurs.
Oui, et puis il faut également dire qu'à leur côté, les acteurs, les vrais acteurs, t'as Didier Bourdon qu'on a entendu, t'as Isabelle Nanty, t'as même Gérard Lanvin
ouais,
aussi.
Bien sûr,
avec
ouais,
sa,
ouais, tout à fait. Bah, qui reprend son rôle original.
Ouais, ouais, avec sa gouaille et sa personnalité charismatique. Mm. Donc, film grand public, film populaire, mais ne pas bouder son plaisir, c'est important au cinéma.
Foncez donc voir Le But en plus de Fabian Antoniente, ça s'appelle 4-0 et c'est bien sûr à l'affiche de votre ciné Mazarin. On a encore pas mal de choses à voir ensemble, hein, avec notamment une avant-première et surtout un autre film qui sort aujourd'hui et qui évoque une légende de la musique française. Une nouvelle place est partie également pour un ou une gagnante que vous découvrirez. Et puis le film du Grenier de Letty, bien sûr. Juste après, eh bien justement, la très belle reprise de Grand Corps Malade qui arrive, La Bohème de Charles Aznavour qu'on évoque juste après.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, deux, trois poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde a dû nous voir, il nous a offert l'espoir, c'est un bon commencement.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire on est heureux. La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Souvent il m'arrivait devant mon cahier de passer des nuits blanches, noircissant toutes ces pages avec excitation, presque comme une revanche. Scander des poésies, quelle jolie fantaisie face à des presque frères, sans enjeu précis, se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée. On a laissé une trace en hurlant nos histoires à la gueule du monde. Je vous parle d'un temps dont je ne changerai pas une seule seconde.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire on est heureux.
Je vous parle d'un temps.
La Bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire. Et ce pincement extrême, la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
À chacun sa bohème, la reprise de Grand Corps Malade par Charles Aznavour. C'est l'actualité d'ailleurs, monsieur Aznavour est actuellement à l'affiche de votre ciné Mazarin. Vous me écoutez Bac FM, bienvenue, je m'appelle Théo, je suis en compagnie de Letty et de Manuel. Répondez présent à l'appel.
Nous sommes là.
Tous présents.
Très bien, super.
Fidèle au poste.
On va pouvoir continuer notre programme comme prévu finalement. On va évoquer pas mal de choses, surtout les films à l'affiche du ciné Mazarin cette semaine. Eh bien, il nous en reste un à voir, monsieur Aznavour. Biopic réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade retrace la carrière du chanteur de son enfance à son succès international. Tahar Rahim interprète le chanteur et c'est ça que tu veux évoquer, Manuel. On en parle juste après la bande-annonce.
Tu chantes et tu joues au théâtre.
Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent.
On va devoir partager le dîner.
Oui, je sais, on va devoir dormir par terre.
Qu'est-ce que tu veux chanter?
Des chansons d'amour.
Pour chanter l'amour, faut être beau.
À 18 ans, j'ai quitté ma province.
Tu vois qui est là?
Edith Piaf.
T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue.
Comment que j'ai chanté dans la rue?
Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée.
Je veux faire mon propre disque. Ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure.
Les photos, les chansons...
Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur, dans chaque salle, et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte.
Bon, tu me dis ce qui va pas?
Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend.
On était fous.
T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose.
Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai.
Ça ne veut plus.
Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout.
C'est toi, papa, qui chante?
Et comment que c'est moi?
Tu passes à la radio?
Oui.
Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout.
Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Ce soir, je vis ou je meurs.
C'est le film et l'événement de cette semaine, Monsieur Aznavour par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, joué par Taha Rahim. Emmanuel, il faut le temps de s'y faire à Taha Rahim.
Oui, c'est vrai, il faut vraiment quelques minutes pour s'habituer dans ce long métrage, Monsieur Aznavour, parce que Taha Rahim, il est complètement maquillé pour ressembler à Charles Aznavour. D'ailleurs, ouais. C'est plusieurs heures de maquillage chaque jour de tournage avec beaucoup de prothèses. Alors, il n'est pas un sosie du chanteur, mais il a envie d'évoquer Aznavour à la fois avec ses traits, avec son apparence, ouais, mais aussi sa silhouette. Alors, c'est un peu un entre-deux.
Il y a une vraie ressemblance quand même, oui. Hein, notamment sur la bouche, moi, je trouve
totalement,
ça assez impressionnant.
Aussi, la chevelure, ouais, sur le plan capillaire. Il imite la démarche, il y a la voix, il y a un travail énorme qui a été fait sur la voix. Il a regardé toutes les archives, il travaille depuis longtemps avec un coach aussi. Tu l'as dit, c'est réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, qui a d'ailleurs chanté, on l'a entendu, avec Charles Aznavour.
Qui était un ami de Charles Aznavour.
Oui, qui était très proche, avec ce goût pour la langue. Donc c'est vraiment, le film s'est focalisé sur les années de galère de Charles Aznavour.
D'accord.
On le rappelle, qui est né Aznavourian. Il avait beaucoup de handicaps pour percer dans la chanson. À la fois fils de réfugiés extrêmement pauvres, il était victime d'insultes racistes.
Ouais. Bien sûr, ouais.
On se moquait de sa petite taille, on se moquait de son gros nez. D'ailleurs, il a subi une opération de chirurgie esthétique pour réduire son nez. Et puis également sa voix voilée, puisque même et quelqu'un pourtant qui est réputé dans le métier, Jacques Chancel, grande voix de la radio et de la télé, avait dit, il avait surnommé l'enroué vers l'or en disant qu'il ferait jamais carrière. Bon bah, il s'est sacrément trompé.
On entend en
la matière.
Dans la bande-annonce, on entend Edith Piaf, d'ailleurs, qui lui dit qu'il a une voix qui est trop voilé, justement, c'est repris dans cette bande-annonce.
Et puis il y a plein de beaux personnages, donc tu parles d'Edith Piaf qui va croiser, il y a Johnny, Frank Sinatra, Gilbert Bécaud, ouais. Sammy Davis Jr. Donc moi, à mon avis, c'est un très bel hommage. Moi, c'est mon chanteur préféré, Charles Aznavour.
D'accord.
C'est le chanteur de l'amour, des sentiments, des turpitudes aussi, d'une vie accidentée. Il a chanté tout ça parce que 1200 chansons quand même. Le répertoire de Charles Aznavour.
Mais
impressionnant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est toi qui as déjà interviewé du coup Charles Aznavour, est-ce que tu as reconnu dans les traits de Taha Rahim une vraie ressemblance dans la voix aussi, dans la manière de chanter? Parce que ce qui est important de dire, c'est que Taha Rahim chante. C'est lui qui chante.
Oui,
c'est
lui. Il a aussi pris beaucoup de cours et il chante lui-même pour être vraiment. Pour qu'il n'y ait pas de doublage, pour que ça colle parfaitement avec les lèvres et c'est impressionnant. Moi, j'ai retrouvé vraiment l'âme et vraiment la dimension, l'univers de Charles Aznavour. Et comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était au moment où l'analogique, les bandes radio disparaissaient et on était dans le numérique. Et pour Radio France, moi j'avais un beau magnétophone numérique. Et Charles Aznavour, il a toujours été passionné tout au long de son existence par la technique et les objets. Alors il me demandait un peu comment ça fonctionnait. Je lui dis, écoutez, monsieur Aznavour, vous savez, moi, contrairement à mon prénom, je suis pas très manuel. Et ça, l'avait beaucoup fait rire. Ouais. Et il avait regardé ça avec intérêt, curiosité. Et bah, je garde un souvenir fabuleux parce qu'on a la chance de regarder. Voilà, il nous a quittés à 94 ans, Charles Aznavour.
Ce sont des rencontres qui marquent.
Ah oui,
et donc
tout
pour
jamais.
Toi, c'est un hommage réussi, donc,
oui.
Ce film.
Et je salue la performance de Tahar Rahim.
Monsieur Aznavour, vous pouvez le retrouver. Il est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Un mot rapide sur l'actu du Mazarin, justement, à côté de ses sorties de la semaine qu'on vient d'évoquer, avec notamment une avant-première, Venom The Last Dance, ultime opus de la trilogie. Tom Hardy est de retour sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel. L'avant-première, c'est vendredi, ce vendredi-là à 21h30. Et puis dans le volet ressorti événement, également, vous allez pouvoir retrouver Zootopie et Lilo et Stitch, qui feront sourire vos plus jeunes, pendant qu'un personnage français culte amusera les plus grands.
Je suis l'Armina à la Camargue vous touche, la secrétaire de M. Jefferson.
Quel nom compliqué. Hubert Bonisseur de la Batte.
OSS 117 revient au cinéma, direction Le Caire et son nid d'espions. Tous les horaires de ces ressorties sont dispo sur internet ou sur place au ciné Mazarin. Le film du grenier va conclure cette émission, mais juste avant, on a un gagnant à vous dévoiler, une place de ciné offerte grâce au ciné Mazarin et Bac FM. Ce gagnant, peut-être, ça peut être vous, si vous inscrivez sur nos réseaux sociaux, Bac FM, Facebook et Insta. Aujourd'hui, c'est un gagnant, il s'appelle Ludo, il fait partie de ces fouteux qui vont aller au cinéma.
Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi.
Quoi ?
Gagne. Gagne.
Mais bon Dieu, on a le feu vert. Saute dessus.
Salut Bac FM, salut Théo, c'est Ludo. Moi, le film que j'ai hâte d'aller voir sur les 4-0...
J'ai mis la main sur une pépite.
Et tu l'as trouvée où, ta pépite ?
C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin.
Le mec, là, c'est le DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec.
Manu a découvert un super joueur.
On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club.
Alors, si jamais j'ai le bonheur de gagner, je vous en remercie d'avance. Et surtout, Théo ne change rien. Allez, bonne journée à tous.
Arrête aussi, t'abuses.
Et Ludo qui s'est inscrit pour gagner sa place de cinéma, qui en plus me complimente, donc il peut que gagner. Voilà, c'est un appel que je fais. Si vous me saucez et que vous inscrivez, vous êtes sûr de gagner une place de ciné. Voilà, c'est comme ça, vous passez des petits messages personnels. Ça peut être des petites déclarations pour Laetitia aussi, on accepte, hein, Laetitia. On accepte si c'est des petits mots
oui,
doux pour
tout
toi.
À fait.
Je vois que tu te prépares pour ton film du grenier.
Oui, effectivement.
Et ça tombe bien parce que t'as un petit débat à faire avec Manuel.
Ouais, alors est-ce que vous croyez au croque-mitaine pour commencer?
Eh oui, moi j'y crois et j'ai vu beaucoup de films qui m'ont fait frissonner et qui m'ont conforté.
Et toi, t'es
dans mon choix.
J'ai toujours très peur qu'on me croque les mitaines, oui, effectivement.
Bah justement, hein, méfiez-vous qu'ils ne viennent pas visiter vos rêves comme Freddy Krueger, icône du cinéma d'épouvante créé en 1984 par le maître de l'horreur Wes Craven, qui signait là une de ses œuvres majeures et donnait naissance à une des franchises les plus mythiques et les plus lucratives du cinéma d'horreur. Alors, c'est bien évidemment le premier film qui va nous intéresser aujourd'hui, celui avec lequel le cauchemar a commencé, Les Griffes de la Nuit, avec dans le rôle principal Heather Langenkamp, qui n'a pas fait une grande carrière à Hollywood, contrairement à celui qui campait son petit ami, j'ai nommé Johnny Depp, qui était alors un jeune jouvenceau et qui incarnait son premier rôle au cinéma. Et puis n'oublions pas Robert Englund dans le rôle inoubliable de Freddy Krueger, un personnage qui va littéralement lui coller à la peau, puisqu'il portera son fameux pull rayé et son chapeau dans 8 des 9 films de la saga, mais aussi dans la série TV diffusée à la fin des années 80, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors 40 ans après sa sortie en salle, Les Griffes de la Nuit est un film d'anthologie pour tout amateur d'horreur. C'est également un morceau de pop culture à lui tout seul. On en parle juste après la bande-annonce.
1, 2, Freddy le Grand, 2, 3, 4, remonte chez toi, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout le
garçon. Il y a quelqu'un dans la cour.
1, 2, Freddy le Grand, 3, 4.
Toute la journée, j'ai pas arrêté de revoir son visage. Et ses affreux ongles. Ses affreux ongles. Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler un cauchemar que j'ai eu cette nuit. C'était quoi ton cauchemar? Il y avait un mec avec un vieux pull vert.
Il l'a massacré sous mes yeux.
Ah, et j'ai fait un cauchemar.
Allez chez moi maintenant, cauchemar.
Bah ouais, hein, les d'époque, la bande annonce, on est bien dans les années 80, il n'y a pas de problème. Alors de quoi ça parle, Freddy ? Eh bien déjà, ça se passe à Springfield, dans l'Ohio. C'est une petite ville de banlieue bien tranquille, et la rue Elm Street, avec ses pavillons et ses jardins aux pelouses verdoyantes, eh bien elle ne fait pas exception, du moins jusqu'à ce qu'une étrange série de meurtres visant des adolescents ne commence à semer la terreur. Des événements qui vont débuter cette fameuse nuit où la jeune Tina fait un cauchemar plus vrai que nature, dans lequel elle est pourchassée par un horrible croque-mitaine au visage brûlé et à la main gantée de lames de couteau. Le matin suivant, alors qu'elle raconte sa nuit tourmentée, eh bien la jeune fille apprend avec stupéfaction que ses amis Nancy et Glenn ont eux aussi fait un rêve semblable. Terrifiée à l'idée que ça ne recommence, Tina va donc demander à ses deux amis de passer la nuit suivante chez elle, une précaution qui va s'avérer vaine, puisque une fois endormie, eh bien Freddy ne tarde pas à lui apparaître en rêve. Sauf que cette fois, Tina, elle se réveillera pas et sa mort sera d'une violence inouïe. Pourtant, c'est pas elle qui semble être la victime vraiment de cet horrible oui. monstre à la griffe. Non, sa proie, celle qui convoitise, c'est Nancy, sa meilleure amie, et la mère de cette dernière pourrait bien détenir la clé de cet acharnement envers elle et ses amis. Dans sa quête de vérité, Nancy, elle va découvrir en effet que ses cauchemars sont en fait visités par la réincarnation de Freddy Krueger, un tueur en série, un tueur d'enfants même, hein, dont ses parents se sont autrefois débarrassés en le faisant brûler vif. C'est donc dans son sommeil qu'elle devra l'affronter pour s'en débarrasser.
Ce qu'il faut savoir, Letty, c'est que c'est un souvenir d'enfance qui a inspiré le personnage de Freddy à Wes Craven.
Oui, effectivement, qui de mieux placé que Wes Craven lui-même, eh bien, pour nous raconter cet événement qui l'a terrorisé.
Quand j'avais, je crois, à peu près 7 ans, j'étais sur le point de m'endormir et j'ai entendu ce bazar qui venait du trottoir en bas. Ça marmonnait. Et je suis allé à la fenêtre. On vivait au premier étage avec ma famille à Cleveland et il y avait cet homme qui ressemblait assez à Freddy tel qu'on le connaît maintenant. Et maintenant, je me rends compte que c'était certainement juste un mec bourré. Mais à l'époque, il était cette silhouette obscure et il s'est arrêté et il a regardé directement la fenêtre et il a planté son regard dans le mien. Alors je ne sais pas comment il a su qu'il fallait s'arrêter pile là, comment il savait qu'un gamin regardait, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et ça m'a coupé net la respiration. Et je me suis éloigné de la fenêtre pendant qu'il continuait à me fixer, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus me voir, et je suis resté là dans l'ombre et j'ai compté. Et je ne sais pas, j'ai dû compter jusqu'à 100 ou 200, peu importe, mais je ne l'entendais plus. Et je me suis dit, il a dû partir maintenant, mais je l'aurais entendu s'il avait bougé, et je suis retourné voir, et il était là, à me fixer encore plus intensément. Et là, il s'est mis en mouvement et a avancé sur le trottoir, toujours en me surveillant par-dessus son épaule, et il a tourné au coin de la rue, vers l'entrée de notre immeuble, que je ne pouvais pas voir. Et je me souviens avoir couru dans l'appartement, dans le noir, jusqu'à la porte d'entrée pour y coller l'oreille. Et j'ai entendu la porte d'en bas s'ouvrir. Et là, j'ai réveillé toute la maisonnée, tout le monde dans l'appartement. Et mon frère est descendu voir avec une batte de baseball. Mais le temps que je réveille tout le monde, avec l'agitation et tout, ce mec avait disparu. Mais ce souvenir est devenu l'essence de Freddy.
Ça fait froid dans le dos, hein.
Moi, il m'arrive ça, je me casse. Vraiment,
et bien voilà, lui, il a transformé ce mauvais souvenir en un film culte Freddy.
Alors, Letty, Freddy slasher, or not slasher?
Alors ça, c'est effectivement un débat qui oppose les fans de cinéma d'horreur depuis longtemps, un débat de geek, hein, clairement.
Ouais.
Et Freddy est-il un slasher comme Halloween ou Vendredi 13, ou est-ce que c'en est pas un? Du coup, je profite de la présence de Manuel pour poser le débat dans Action. Manuel, qu'est-ce que t'en penses? Freddy, slasher, or not slasher?
Ben, je pense que c'est not slasher pour moi.
D'accord.
Ouais, parce que ça va au-delà. On est dans. Ben, il suffit d'écouter Wes Craven, donc voilà, aux sources de la saga. Voilà, ce cauchemar entre guillemets qu'il a vécu et qui lui a inspiré son idée de départ. Et puis je pense à l'affiche originale magnifique,
ouais.
D'ailleurs que je possède, ma chère Letty,
très très belle.
Voilà, qui montre toute la dimension à la fois onirique. Et puis
paranormal
et en plus c'est une espèce de mise en abîme.
Ouais.
Donc pour moi ça va au-delà du tueur en série et qui revient hanter les cauchemars. On est souvent dans les Freddy et notamment dans le premier, on est à la fois éberlué, on est bien sûr terrorisé, mais on se pose beaucoup de questions.
Oui, c'est vrai.
Et pour moi, c'est là où je vois l'habileté et l'originalité du scénario, parce que voilà, il y a un scénario de grande qualité pour Freddy, hein, et notamment pour le premier.
Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que moi, malgré tout ça, eh bien, pour moi, Freddy égale slasher.
Comme quoi, tu vois.
Parce que, alors effectivement, alors il coche certaines cases. Hein, on a bien le boogeyman, il tue bien l'arme blanche parce que ses griffes, c'est bien une arme blanche. Il tue bien des jeunes gens, mais tu as raison, hein, il manque quelques cages à cocher pour que ce soit un slasher pur sang, on va dire ça comme ça. Par exemple, ça se déroule
c'est
pas.
C'est un cousin du slasher.
C'est ça, ça se déroule pas à une période précise de l'année. Et puis, comme tu le disais, hein, dans un slasher traditionnel, le boogeyman, en général, c'est un être bien vivant qui prend ses victimes au dépourvu dans des situations ancrées dans le réel, finalement. Et là, c'est pas le cas, hein, avec tout ce côté onirique. Ouais. Freddy, on l'affronte dans les rêves seulement quand on dort. Mais moi, j'ai envie de dire que Les Griffes de la Nuit, c'est un film avec lequel Wes Craven il faisait déjà évoluer le genre du slasher, finalement 22 ans avant de lui redonner ce nouveau souffle avec Scream. J'ai envie de le voir un peu comme ça, pour déjà un renouveau.
Oui, bah c'est, tu peux tout à fait le voir comme ça, je t'y autorise, ma chère.
Tout comme je t'autorise à le voir comme pas un slasher, tu vois, comme quoi le débat finalement...
Oui, le débat est toujours d'actualité. Est
très intéressant. Alors, pour en terminer sur Freddy, après ce débat pour lequel, et c'était pas prémédité, hein, le fait qu'on soit pas d'accord, hein, je tiens
non,
à préciser.
Non, totalement spontané.
Exactement. Alors pour terminer, si vous hésitez à voir ou revoir Freddy pour Halloween, bah moi j'ai trois arguments pour vous convaincre. Il s'agit de trois scènes extrêmement marquantes. La première, c'est la mort de Tina au début du film. Elle est d'une violence absolue, cette mort. Elle est littéralement projetée au plafond, elle est déchiquetée par Freddy sous les yeux horrifiés de son petit ami. D'ailleurs, les frères Duffer vont s'en inspirer de façon très explicite dans la saison 4 de Stranger Things. Et comme si ça suffisait pas dans cette saison de Stranger Things, eh bien, on voit apparaître l'acteur Robert Englund dans un petit rôle. Oui. La deuxième scène culte à voir ou revoir absolument, bah, c'est le meurtre de Glenn, hein, de Johnny Depp, qui lui, alors il est avalé par son lit, dans un bain de sang qui est absolument inouï. Un bain de sang qui va recouvrir toute sa chambre, de quoi vous faire redouter cet endroit a priori si douillé.
Le film de foot, ça me souvient. Très bien.
Et puis pour terminer, bah, impossible de pas évoquer la fameuse scène de la baignoire qui a traumatisé pas mal de monde, hein, je pense.
Plusieurs générations.
Ouais. Alors pour ceux qui ont vu le film, souvenez-vous, on y voit Nancy qui s'est assoupie dans son bain, quand tout d'un coup surgit entre ses cuisses la main griffue de Freddy. Une scène où les froids se mêle à un soupçon d'érotisme dont je crois que le tournage a été assez mal vécu par l'actrice Heather Langenkamp.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
D'ici le 31 octobre, où est-ce qu'on peut aller le voir, Laetitia, ce film ?
Alors malheureusement, ce film, il n'est disponible sur aucune plateforme. Vous ne trouverez que son remake de 2010 qui n'est pas ouf. Par contre, il est disponible à la VOD. Ouais. Et je pense que si vous connaissez quelques fans de films d'horreur, ils doivent avoir le DVD ou le Blu-ray quelque part.
Ouais, qui traîne.
Alors, Letty, quand même, un petit conseil. Si on a envie, par exemple, le 31, de communier dans la magie d'Halloween, de l'horreur, de la terreur. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce que le grand public peut voir ? Soit au cinéma, soit sur une plateforme ?
Bah, au cinéma, Smile 2.
Ouais, Smile 2, hein, c'est pas mal, c'est un bon choix.
Je pense que Terrifier 3 aussi.
Aussi,
pourquoi
on
pas
en a parlé dans l'expérience.
Qui sera diffusé à la Charité sur Loire d'ailleurs le 31 octobre. Il n'est pas diffusé au cinéma Zarin, mais on a le droit de faire la pub pour les autres cinémas.
Et tu en parleras avec Emmanuel Dumont peut-être.
Et ouais, carrément, là tout à l'heure à 13h, il sera mon invité de 13h. On continue de parler cinéma. On parle Cine Quanon, la Charité sur Loire, le Crystal Palace, Terrifier 3 qui sera diffusé exactement pour cette séance d'Halloween.
Ouais, avec deux très belles programmations, hein, pour la Charité. Ouais. Dans les deux salles, il y aura une programmation différentes et franchement il y a du niveau.
Ouais, ouais. Donc on confirme quand même Smile 2,
allez.
Et pour les personnes 3. Qui vont pas au ciné quand même, parce que
alors
bon, faut pas les oublier,
les plateformes regorgent de films d'horreur en ce moment.
Oui, on les trouve, hein,
oui, il ouais. Y a par exemple les Conjuring à la télévision. Tiens, il y a The Ring qui est passé il y a deux jours, alors la version américaine par contre, hein, donc version un petit peu plus mainstream, on va dire. Et puis il y a toujours les bons vieux Ça.
Bien sûr.
Pour pour les ados qui ont envie de se faire des petites soirées.
S'ils veulent regarder.
Non, mais
ça,
c'est sûr. Et puis il y a les deux Ça de plus récents. Et puis
et le vieux.
Et le vieux, il y a la série aussi.
Il est revenu.
La série télé, ouais.
qui était encore plus effrayante.
Bon, ça fait un joli catalogue. Merci à toi, Letty. Merci, Manuel, d'être venu.
Mais oui, en plus, Letty, j'ai vu qu'elle était en train de ciseler sa citrouille. Elle se prépare.
Oui,
elle
est, oui, celle-là, je suis en plein creusage.
Elle est en transe, elle est en transe, les filles.
On vous mettra une photo sur les réseaux sociaux, Bac FM Promis, Facebook, Insta. Merci à vous d'avoir été à l'écoute.
Merci, Théo, merci, Manuel.
À midi, il y a Culture en Vrac, bien sûr, qui arrive, les échos du Café Charbon. Et puis nous, on se retrouve à 13h avec les infos et mes invités cinématographiques. Manuel.
Le mot de la fin, allez au cinéma, le vrai, sur grand écran.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.